Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'émission Patara de Radio Ndekeluka, consacrée aujourd'hui aux avancées dans le programme DDRR en République centrafricaine. En effet, le président Faustin Kachtoadira a officiellement lancé le lundi 17 décembre à Paoua le programme de désarmement des groupes armés dénommé le Grand DDR. Après le projet pilote qui a permis la récolte de quelques armes automatiques et de fabrication artisanale, c'est au tour du vaste programme DDR proprement dit de s'exécuter. Pour exprimer leur adhésion au processus lancé, les groupes armés actifs dans la région ont remis symboliquement chacun une arme à Faustin Kachtoadira, président de la République. Il s'agit de l'Union des forces républicaines, UFR, la Révolution Justice de l'ancien ministre Armel Sayo et celle de Belanga. Ce programme a été lancé dans un contexte d'insécurité dans plusieurs régions du pays, contrôlées à plus de 60% par des groupes armés. Le Grand DDR se poursuivra dans plusieurs autres localités alors que certains mouvements armés semblent réticents au programme qu'ils conditionneraient à l'issue du dialogue en préparation par l'Union africaine avec Bangui. Même si, sur le terrain, la volonté a été prouvée avec cette remise symbolique des armes chefs de l'État à Paoua, il n'en demeure pas moins que des voix s'élèvent contre l'organisation de cette cérémonie. C'est le cas par exemple de Hergi El Belanga, dont certains responsables à Bangui se sont dit surpris de ne pas être informés du déplacement du président de la République et de sa suite. Ils dénoncent des irrégularités dans la mise en œuvre du programme. Le Grand DDR est lancé à Paoua, une ville de la préfecture de l'Ouampéndé, alors que plusieurs localités de la dite préfecture sont encore contrôlées ou menacées par des hommes armés. C'est le cas de Bukaranga, où les groupes armés sont hostiles au redéploiement des forces armées centrafricaine FACA. C'est aussi le cas de Kui, Ngaoundaï, contrôlé par les 3R. Financé par la communauté internationale, le programme peine encore à mobiliser certains groupes armés. Le FPRC de Nourdine Adam, qui contrôle le nord-est, n'adhère toujours pas à ce processus. Les anti-Balaka, en guise de protestation à l'arrestation de leur leader, ne semblent pas motivés de continuer le processus. Néanmoins, le train est en marche. Question: le Grand DDR récemment lancé a-t-il vraiment les chances de connaître un succès? Quelles sont les avancées enregistrées à ce jour? À quel niveau se situent les points de blocage? Pour en parler, nous recevons autour de la table Colonel Noël Célesson, conseiller au DDRR, coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR, président du comité consultatif du suivi du processus DDRR. Colonel Noël Célesson, bonjour.
Merci, bonjour Hippolyte.
Monsieur Dieudonné Ntomaté, chargé d'opération du mouvement des patriotes anti-Balaka, deuxième vice-président du comité consultatif du suivi du DDRR. Monsieur Dieudonné Ntomaté, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Colonel Larry Nordien Malba, coordonnateur du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice en abrégé MLCJ, coordonnateur de groupes armés adhérents au processus DDRR, membre du comité consultatif de suivi. Colonel Larry Nordien Malba, bonjour.
Bonjour et bonjour à nos auditeurs.
Et monsieur Isaïe Malikion Tobi, président du mouvement Révolution Justice, RJL Belanga, membre du comité consultatif de suivi. Monsieur Isaïe Malikion Tobi, bonjour.
Bonjour.
Guy Rémy Yamenenti, à la technique, Hippolyte Marwa, à l'animation de ces débats.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, colonel Noël Célesson. Le Grand DDR est enfin en marche. On peut dire qu'il vous a fallu suffisamment d'énergie, beaucoup d'énergie pour y arriver aujourd'hui.
Est-ce qu'il nous a fallu beaucoup d'énergie pour arriver au lancement officiel du DDR? Oui. Qu'on ne perd pas de vue que ça fait 2 ans. Pendant ces 2 ans, nous avons eu 16 sessions. Et donc, à l'issue du projet pilote qui a duré 3 mois, du mois d'août au mois de décembre 2017, il a fallu que maintenant on sorte tester toute la machine qu'on était resté pendant les réunions à tester pendant le projet pilote. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'il faut pour réussir un DDR? Il faut la volonté politique, il faut les techniques et les finances. La volonté politique, on l'a aujourd'hui parce que le président de la République, chef de l'État, a promis le DDR qui fait partie de son projet de société et qu'on ne perd pas aussi de vue que le DDR remonte aux consultations populaires à la base. Donc, le DDR est l'émanation du peuple centrafricain. Le président de la République a la volonté politique. Les techniques, en 2 ans, on a rassemblé ce qui est des techniques. Et les finances, comme vous le savez, le DDR est financé par la communauté internationale. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les finances sont rassemblées à 88%, même s'il manque quelques moyens. Mais les habitués en matière de projet nous rassurent qu'il suffit de démarrer, nous pouvons encore mobiliser d'autres ressources additionnelles pour aboutir. Donc, il a fallu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, politiquement, techniquement, financièrement, on est prêt pour réussir les DDR en République centrafricaine.
C'est un motif de satisfaction pour vous?
Je dirais oui, avec l'appui des partenaires, parce que qu'on ne perd pas de vue que on ne fait pas le DDR à seul. Le DDR n'est pas une invention centrafricaine.
Merci, colonel Noël Célesson, monsieur Dieudonné Ndomaté. Aujourd'hui, vous siégez au bureau du comité consultatif. Tous les efforts, toute la bonne volonté politique et technique sont en place. Vous croyez, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, le DDR est sur la bonne voie?
Effectivement, Hippolyte, si vous me permettez, j'aimerais qu'on puisse parler de l'état d'avancement du DDR depuis la mise en place de la coordination du programme national de DDR avant d'arriver au lancement du grand DDR à Paroi.
Nous y sommes, s'il vous plaît.
Comme vous avez dit tout à l'heure, toutes les forces ou bien tous les travaux ont besoin de l'énergie. Ouais. Nous avons épuisé de l'énergie pour arriver à cela. Mais le vrai problème, c'est que, comme le colonel Célesson a dit tout à l'heure, que vous savez, dans tous les pays où on en fait le désarmement, il y a certains paramètres dont il faut tenir compte pour que le DDR puisse réussir. Il a dit tout à l'heure, il y a la volonté politique, et l'adhésion des groupes armés aussi, c'est très important. Il faut que les groupes armés adhèrent au processus. Il y a aussi l'appui des partenaires, l'appui financier, logistique, un peu partout. Et aussi la mise en œuvre du programme. C'est ça qui va faire réussir le DDR. Parlons de volonté politique. J'aimerais louer l'effort du chef d'État qui, aussitôt après son investiture, il a dit que la priorité de ses priorités, c'est la sécurité. Et qui dit sécurité, dit désarmement. Parce que sans le désarmement, il n'y aura pas de sécurité. Il a mis en place la coordination du programme national de DDR avec toutes les structures. Donc vous allez trouver un comité stratégique présidé par le président de la République, chef de l'État, comité technique, présidé par le premier ministre, chef du gouvernement, et comité consultatif et de suivi, présidé par le conseiller au DDR à la personne du colonel Célesson, en même temps coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR. Alors, nous, en tant que groupe armé, nous avons constaté que la mise en place de cette structure ne conforme pas à l'article 9 de l'accord du 10 mai 2015, l'accord sur le désarmement. Ça ne correspond pas. Seul accord a dit que la coordination du programme national de DDR sera mise en place par le gouvernement impliquant les groupes armés, la société civile, la communauté internationale et d'autres partenaires. Alors que si vous voyez bien, dans cette structure-là, les groupes armés se trouvent au niveau du comité consultatif et de suivi. Et nous avons dit que ça, c'est une manière de nous faire écarter du processus. Nous avons réagi très tôt au début. Nous sommes allés voir le chef d'État qui nous a rassurés. Il a dit que c'est le comité consultatif et de suivi qui va faire le désarmement et que tout sera débattu au niveau du comité consultatif et qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Comme si le président de la République a dit, nous sommes rassurés sommes engagés dans le processus.
Un engagement moral.
Alors, maintenant, en réalité, sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a pas de coordination entre le comité consultatif et de suivi et comité stratégique. Au sein même de la comité consultatif et de suivi, il y a un dysfonctionnement total organisé, je peux dire comme ça. Alors, si on ne fait pas très attention et on ne cherche pas à recadrer les choses vers moi, je peux dire que le grand DDR est avoué d'office à l'échec.
Mais apparemment, c'est le comité consultatif qui est effectivement sur le terrain.
Oui, on peut dire que c'est le comité consultatif, mais ce n'est pas le comité consultatif. Sur le terrain, nous avons une structure. L'unité d'exécution du PNDDR est composée du secrétariat technique et le comité consultatif et de suivi. Et après, nous allons employer équipe mobile de désarmement. Ce sont les équipes mobiles qui sont sur le terrain en ce moment pour désarmer les ex-combattants. Alors, il devait y avoir coordination entre comité consultatif et comité stratégique. Ce qui se passe, c'est quoi ? Au niveau de l'autre, le comité stratégique, il élabore le plan de désarmement sur le plan national, politique du désarmement. Le comité technique élabore les documents, on nous envoie les documents, on enrichit, on valide, on renvoie au comité stratégique pour la validation. En principe, on devait avoir le feedback, mais arrivé au niveau de l'autre, le comité stratégique, les documents que nous avons amendés, on ne voit pas. Tout ce qu'on a élagué ou bien on a ajouté dans le document, ça reste les mêmes documents. Alors, on se dit, ça, vraiment, il n'y a pas de volonté politique en tant que telle.
Il y a, selon vous, un blocus quelque part.
Effectivement.
Alors, je pose la question suivante. Je vais revenir aux deux autres invités tout à l'heure, mais à partir de votre développement, poser la question au colonel Noël Célesson. En votre qualité du coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR, est-ce que vous siégez au comité stratégique?
Je crois que ça fait 2 ans qu'on répète les mêmes choses, mais c'est pédagogique.
Bien sûr.
Il faut de temps en temps revenir.
Ouais.
Qui dit coordination ne veut pas dire subordination. Quand on voit le CCS, pour ceux qui étaient là, il faut faire un lien entre le CCS et le COSAB, qui existait de notre retour de Brazzaville. Le comité de suivi des accords de Brazzaville.
Ah d'accord.
Ça regroupe les groupes armés. Dans tous les projets au monde, que ce soit de DDR, que ce soit d'autres projets, il y a une unité sous forme de conseil d'administration et puis il y a une unité exécutive. Le CCS, c'est l'image de COSAM, c'est que ça sert de conseil d'administration. Et j'avoue que pendant la transition, on a reproché qu'il n'y avait pas la volonté politique. Si aujourd'hui, d'aucuns ignorent l'importance que le chef d'État accorde au DDR, à sa mise en œuvre, si certains ignorent, bon, cela va de soi. Mais pour moi, il y a confusion. Il y a confusion dans les rôles. On a passé tout le temps à expliquer, mais on va expliquer suffisamment pour que ça soit compris. Le CCS est là, le CCS sert d'organe de conseil d'administration. Est-ce que ça se passe bien? Si ça se passe bien. Maintenant, c'est difficile, c'est incompréhensif de dire que le CCS n'a pas de feedback.
Oui, il n'y a pas assez de retour émanant du comité exécutif. Est-ce que vous l'avouez ou pas?
Non. Je dirais, on a passé suffisamment de temps dans les accessoires. Ce que je dis n'engage que moi au comité consultatif. Les vraies thématiques qui doivent être traitées, on se contente que des accessoires. Et l'essentiel demeure encore jusque-là. L'essentiel, c'est les éléments qui sont sur le terrain. Leur avenir, c'est leur intégration. Ça va être au niveau de combien? Combien vont être recrutés dans les forces? Si je vous dis jusqu'à la date d'aujourd'hui, certains groupes ne connaissent même pas l'effectif
de leurs éléments.
Je dis c'est le B.A.B.A. C'est comme à l'armée, vous êtes chef de section, vous avez 30 bonhommes. Vous devez les connaître chaque jour. Même si on vous demande de remettre, vous refusez. Vous devez au moins savoir que vous avez 300 bonhommes sur le terrain. C'est le B.A.B.A.
Est-ce que c'est une manière de nous dire que jusqu'aujourd'hui, ce travail d'identification des sexes combattants se poursuit?
Si, je vous dis, c'est dans ce sens que le chef de l'État nous a instruit de démarrer avec ceux qui sont prêts. Et ceux qui sont prêts, je peux dire, c'est ceux qui sont structurés, c'est ceux qui détiennent des listes, c'est ceux qui ont la volonté, c'est ceux qui nous invitent à aller sur le terrain, prendre contact avec leurs éléments. Parce que derrière le DDR, il n'y a pas que les combattants, il y a les communautés qui ont souffert. Et le combattant qui est là, une fois désarmé, réintégré, est appelé à regagner la communauté. Il faut préparer et les combattants et les communautés. Les communautés, c'est les écoles, c'est les forages, c'est les hôpitaux. C'est tout ça qui manque à nos parents en province. Et ça y est dans le DDR. C'est le deuxième volet du DDR. Moi, l'aspect réintégration des ex-combattants, l'engagement, c'est remettre les armes et mettre fin. C'est les dispositions de cœur. Si certains disent qu'ils ne sont pas prêts, ils avancent. Leur raison, eux, c'est que le cœur n'est pas prêt. Et ceux qui sont prêts, nous, derrière eux, on voit les communautés. On voit nos parents, on voit les écoles, les forages. Vous parcourez des kilomètres, il n'y a même pas de forage. Alors que les partenaires sont prêts à nous aider. Dans ce sens, qu'est-ce qu'il y a à refuser?
Merci, colonel Noël Sélesson. Colonel Larry Nordine Malba, aujourd'hui, vous êtes le coordonnateur de groupes armés qui ont adhéré au processus DDR aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique un peu cette réticence de la part de certains groupes ou encore de certains acteurs qui portent encore les armes?
Merci, Hippolyte. Je pense que tous les groupes sont prêts. Il ne faudrait pas qu'on se trompe, qu'on se perde de vue pour dire que voilà, les gens ne veulent pas remettre les listes et tout ça. C'est la manière du travail tel qu'a dit tout à l'heure ici mon frère des Antibarakans, Domaté. Il y a des failles à corriger et ces failles-là, on doit les corriger pour avancer. Il y a un problème de dysfonctionnement au sein même de la structure chargée de la mise en œuvre du DDR. Il faudrait qu'on le dise clair. Le décret pris par le chef de l'État, lui, il a signé un décret comme quoi l'unité d'exécution est composée de comité consultatif de suivi et du secrétariat technique. Mais ça se réduit seulement au secrétariat technique. Maintenant, on fait ce qu'on appelle pilotage à vue. C'est un travail de risque. Quand on nous met pour gérer le DDR, on doit mourir ou pas, on doit rester. Parce qu'on travaille pour le peuple. Et Dieu ne va pas accepter à ce que tu meurs. Parce que tu vas travailler pour le peuple. Tu dois aller là où les gens sont. Bien sûr, vous êtes. Vous êtes ici. Vous avez tel nombre. Mais tu ne vas pas les diviser. Les groupes armés n'ont pas refusé de remettre les listes. Les groupes armés ont les listes. Et cette manière de dire avancer avec ceux qui sont prêts. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans des réunions, on dit des gros français, on dit non, voilà, tout ça. Mais on ne caresse pas. On y va là où ça se trouve le problème pour percer l'abcès et trouver la solution à ça. Je crois que le DDR est dans sa phase irréversible. Ça doit aller par la grâce de Dieu. ça va réussir parce que le but, c'est de réduire les armes en circulation. Absolument. Et si on le fait bien, on doit réduire toutes ces armes en circulation depuis.
Je l'avais dit, hein, le train est en marche, donc il n'y a plus moyen de faire marche en arrière. Mais aujourd'hui, hein, le problème se pose toujours. Vous avez reconnu que les groupes armés, ils ont des listes. Qu'est-ce qui les empêche de les acheminer au comité consultatif?
Je vous dis, donner des listes. Est-ce que c'est là le problème? Il faut identifier tous les ex-combattants.
En deux ans, vous n'êtes pas en mesure de le faire.
Tout le monde a les listes, mais ils reprochent cette manière de communication entre nous. On doit être ensemble, on parle, on est simple, on est ceci. Mais c'est cette manière-là, ce dysfonctionnement qui fait que les gens sont un peu réticents parce qu'on doit seulement dire que non, c'est nous, les autres là, et puis on prend des décisions, on reste dans des bureaux, on prend des décisions. On doit communiquer avec tout le monde. Le Centrafricain n'est pas compliqué.
Bon, ça alors, qui doit le faire? Communiquer avec les éléments sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas vous, les leaders, qui doivent le faire? Est-ce que ça relève de la compétence, j'allais dire, du...
On communique toujours avec les éléments sur le terrain, sauf que les gens veulent écouter ceux qui sont désarmés déjà et qui se fabriquent des gens. Alors que ceux qui sont sur le terrain, ils ont des problèmes.
D'accord, oui. Le colonel voudrait réagir. Après, on va demander.
Je réponds. Oui. Le CCS est mis en place pour que chaque groupe armé désigne deux représentants. Et qu'à la fin, chaque représentant repart dans sa base pour sensibiliser, commencer à préparer le DDR. On ne perd pas de vue. Le CCS n'a pas été mis en place pour fabriquer des futurs ministres qui sont là avec des aides-camps et puis qui bloquent même le système. La liste, on est actuellement à Pawa. On fait un travail sérieux, même si d'aucuns supposent que... Mais on fait village à village, les gens amènent des armes fonctionnelles. Ça fait deux ans qu'on fait ce travail, si vous n'avez pas de liste. Dommage, il y en a qui arrivent à repartir chez eux pour passer le message. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de combattants. Et le CCS n'est pas un endroit pour chaque groupe armé de se tirer dessus. Chaque groupe armé arrive, défonce sa boutique, comme il dit. Vous avez des éléments, ok, c'est à nous maintenant, au niveau du bureau, d'aller chez vous. La liste, ok, des éligibles, ok.
Mais quand on écoute M. Malba, on a l'impression que le comité d'exécution laisse les vrais acteurs pour travailler avec ceux-là qui n'ont pas assez d'éléments sur le terrain ou encore ceux-là qui n'ont pas pouvoir d'influence, si je ne me trompe pas.
À ce pouvoir que le chef d'État nous a délégué, tous les groupes armés se valent. C'est maintenant sur le terrain, le jour J. Vous allez me dire que RJ Sayo ne vaut pas au MLCJ. Les anti-Balaka sont plus armés qu'un autre.
RJ Belanga.
Mais nous, le travail qu'il nous a donné, ce n'est pas de diviser les groupes armés. Vous en avez 10, mais à partir du moment où vous siégez au CCS, sortez-nous les 10, on va y aller les désarmer. Vous en avez 1000, on va y aller désarmer les 1000. Ce n'est pas ce travail de polémique ou bien d'amalgame qu'on fait. Donc, il faut y aller. Vous en avez 10.
D'accord, oui. Oui, très rapidement,
ouais, merci,
monsieur
Hippolyte, je crois qu'en écoutant le colonel Seyesson, il veut dire que les groupes armés n'ont pas la volonté de procéder au désarmement.
Pas tous, il y en a qui ont la volonté et eux, on ne peut pas
dire. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'un des paramètres, là, c'est l'adhésion des groupes armés. Si les groupes armés ne sont pas prêts d'aller au DDR, ils ne peuvent pas siéger dans l'autre là, dans le comité consultatif et du suivi. Et vous savez pourquoi FPRC s'est retiré du processus? C'est vrai que FPRC est entré dans le processus tardivement, mais aussitôt, il est le premier à se retirer parce qu'il voyait des gens. Un danger, c'est que le processus ne va pas marcher en tant que tel, comme le chef d'État a dit. Alors il s'est retiré.
Mais pourquoi ça ne va pas marcher?
Et pourquoi on ne peut pas corriger ensemble?
Ça ne va pas marcher parce que nous avons parlé de dysfonctionnement. Le dysfonctionnement qui est au niveau de CCS. Le CCS, il y a un dysfonctionnement. Je vais dire, ce ne sont pas les problèmes de liste. Les listes de groupes armés, les groupes armés, Larry a dit tout à l'heure que tous les groupes armés ont leur liste. Mais le problème se pose, nous avons dit, nous avons redit qu'il y a des préalables. Nous avons fait le projet pilote que le chef d'État a initié. Il nous a dit, l'incorporation, c'est dans le FACA. Force de défense concerne le FACA et la réintégration socio-économique. Mais pour le grand DDR, là, l'intégration dans les forces de défense et de sécurité de l'État concerne les FACA, la gendarmerie, la police, la douane, aux forêts, tout et tout. Alors, on devait nous dire quels sont les critères d'intégration dans les différents corps-là. On doit savoir pour expliquer aux enfants, hein, pour les sensibiliser sur, avant de procéder au désarmement. Mais on ne nous a pas encore discuté sur ça. Il y a aussi les ex-militaires qui sont dans le rang de groupes armés aussi. Leur processus d'incorporation, là on doit discuter à la CCS. Mais on n'a pas discuté ça. Et brusquement on nous a dit d'aller au DDR. C'est là que nous avons dit non, ça ne va pas marcher comme ça. Mais personne n'a refusé d'aller au désarmement. Concernant la liste, je prends par exemple le cas des anti-Balaka. Vous-même vous savez,
anti-baraka, ce n'est pas un groupe de rébellion en tant que tel, c'est un mouvement révolutionnaire. Ils sont un peu partout, ils sont répandus sur l'ensemble du territoire. Mmh. Il fallait aller dans les différentes zones pour les sensibiliser, conscientiser, actualiser même les listes. Mmh. Parce que certaines ont été arrêtées, certaines sont mortes. Donc vraiment, il faut actualiser la liste. Nous avons demandé à l'unité d'exécution de nous trouver des moyens, de nous aider d'aller actualiser cette liste.
Il faut donner les moyens,
effectivement, parce que nous avons les appuis des partenaires qui sont disponibles pour faire le travail de désarmement. C'est le désarmement qu'on va faire. La confection des listes, là, c'est pour le désarmement, c'est pas pour aller inscrire à l'université.
Et vous avez le sentiment que cette demande aujourd'hui n'est pas écoutée du côté du comité d'exécution?
Effectivement, même au niveau du comité stratégique, c'est difficile de collaborer. Il n'y a pas de collaboration, ce qui a fait que les informations ne montent pas au niveau du comité stratégique. D'accord. Je ne sais pas, je ne dis pas le contraire. Peut-être les informations montent et qu'il n'y a pas de feedback, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas.
Ok, nous allons peut-être tout à revenir au colonel Noël Selesson, peut-être s'il a des éléments de réponse.
Si vous voulez, je peux alimenter, si vous...
Peut-être on va d'abord écouter M. Esaïe Malikian Toubi, qui est le président du mouvement Révolution Justice El Biranga aujourd'hui. Hein. Vous avez le sentiment que vous et vos hommes ont intégré la dynamique, vous avez vraiment intégré le processus en cours parce que le grand leader a été justement lancé dans votre zone, M. Toubi.
Hippolyte Marbois, merci beaucoup. Merci les auditeurs. Je dis bonjour aussi au peuple centrafricain qui nous écoute. Vous savez, si on nous accuse, ils accusent les groupes armés de ne pas avoir la bonne volonté d'aller au processus du désarmement, j'ai dit non.
Certains groupes armés.
Certains groupes armés. Ouais. Mais c'est par rapport.
Vous parlez des groupes armés dans l'ensemble.
Certains
groupes armés.
Donc, vous savez, c'est la manière de sa mise en œuvre là qui ne nous arrange pas du tout. C'est un programme national d'où on doit mettre en place un comité local, d'où on doit intégrer tout le monde dans ce processus. Les leaders doivent intégrer leurs éléments pour qu'ils puissent faire le suivi et le bon déroulement de ce processus. Malheureusement, ce qui n'est pas du tout normal, c'est qu'il n'y a pas un consensus à ce niveau, donc on est bloqué comme ça.
Mais qu'est-ce que vous faites, vous, représentants des groupes armés au sein du comité consultatif, pour qu'aujourd'hui, vous nous donnez le sentiment que, voilà, vous n'avez pas pouvoir de décision?
On a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté pour que ce programme soit élaboré. On s'est parlé, mais vous savez, il y a des blocages, comme le collègue vient de dire. C'est qu'au comité consultatif, on arrange tout, on dit tout ici, ça remonte, mais ça ne revient pas. Alors, on ne sait où aller.
Alors, justement, colonel Noël Selesson, aujourd'hui, en termes d'avancée...
Je peux compléter ce qu'il a dit, Hippolyte. Oui, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau du comité consultatif. Ouais. Effectivement, notre rôle au niveau du consultatif, nous servons comme un messager entre le gouvernement et les groupes armés, c'est-à-dire nos bases respectives. Donc, on vient au comité consultatif. S'il y a des documents élaborés, nous, on enrichit le document et on fait des recommandations et... on fait la restitution au niveau de notre base respective. Maintenant, nous avons fini avec les phases d'élaboration des textes. On doit passer à la phase de mise en œuvre. En mise en œuvre, au niveau du comité consultatif, on doit programmer, on doit planifier les activités. Je peux dire, le chef d'État a dit, le comité consultatif et de suivi, c'est l'organe moteur du désarmement. Donc, tout doit passer au niveau du comité consultatif. Même si on veut recruter les gens dans l'unité d'exécution, là, on doit passer par le comité consultatif. Même si on veut programmer une activité dans telle zone, on doit passer par l'unité consultative. Mais ce qu'on n'a pas fait. Parfois, les gens sur le terrain, on nous informe qu'on est en train de faire une activité dans l'arrière-pays. Mais les membres du comité consultatif ne savent, même les représentants des groupes armés dans la zone ne sont pas informés sur cette activité-là. Alors, c'est normal.
Juste compléter, je pense que quand on dit fabriquer des futurs ministres, tout ça, la vie a son choix. Aujourd'hui, tu peux être tel, Dieu peut te donner ce qu'il peut. Alors ça ne doit pas créer une confusion pour que le travail puisse se bloquer au profit du peuple centrafricain. Pourquoi on va choisir la ville de Pawa? Pourquoi on doit dire lancement, le DDR pilote? On est parti où pour le faire? Le comité consultatif, si ça ne travaille pas, on est resté là dans des réunions comme ça, à mener telle liste, 40, 40, 20 pour tout ça. Les anti-balaka ont dit non, 40 c'est petit parce qu'ils veulent beaucoup. Et après, on a trouvé des compromis et ils ont donné les listes. Il n'y a que seul FPRC et RJ Sayo qui n'ont pas remis. Ça, on sait à peu près que ceux qui ont la mauvaise volonté, voilà ceux-là. Après, ils ont compris qu'il fallait chercher encore à envoyer des listes. Même pour le grand DDR, on est là dans les réunions, on se retrouve, on dit bon, voilà. C'est ce feedback-là, cette communication qui ne passe pas. Alors, nous tous, nous ne sommes pas compliqués.
Mais vous, est-ce que vous avez tous été présents au grand DDR?
Ah, dire ça encore, ça sera compliqué parce que on a pioché ici, c'est lui qui marche avec moi, l'autre là il devient ennemi, alors que tous ceux-là veulent contribuer pour la paix. Mais il faut écouter la vérité.
La vérité c'est laquelle?
La vérité c'est ce que nous disons. Parce qu'il y a des marchands d'illusions qui viennent, qui font des trafics d'influence, on les écoute, on pense que ce sont ceux-là avec qui on va travailler pour réussir le travail.
D'accord. Alors, revenons-en au lancement du compte EDR à Paoua. La cérémonie n'a pas fait l'unanimité au sein des groupes armés. RG Belanga, par exemple, dont le représentant, le président, est avec nous sur ce plateau, a réagi pour exprimer sa surprise. Comment on peut comprendre cela? À quel niveau se situe la fausse note?
Si vous me permettez, je vais revenir en arrière pour dire à mes frères qu'on ne peut pas être dans un bateau et accepter de commencer à faire des trous dans le même bateau. S'ils sont engagés pour aider le pays, s'ils veulent être au rendez-vous, acteurs de la paix, c'est maintenant. Les discours, les incompréhensions, tout ce qu'on a fait, ça reste une œuvre humaine. Il y aura des corrections à faire parce qu'on a failli là, on a failli là. S'ils ont la volonté, il faut qu'on avance. Certains ont dit ici, il y a des ex-militaires parmi eux. Nous, on est allé même découvrir qu'il y a des diplômés civils parmi eux. Mais comment nous, au niveau de Bangui, on peut le savoir? On n'est pas des magiciens.
C'est sur le terrain qu'on découvre.
C'est avec leur liste. C'est à eux de nous dire. On a des diplômés ici, on a des militaires avec nous. Mais ils ne disent pas, sans vous le cacher. Au début, certains venaient au CCS, ils repartaient à leur base. Actuellement, ils sont 90%, ils restent à Bangui. Et les éléments sont abandonnés. On part, on informe les gens sont surpris. Ah, donc le DDR, c'est ça? Alors, c'est le travail qu'il nous a donné, nous et eux. On nous a donné le peu de moyens, il ne faut pas aussi être gourmand. Mmh. Ceux qui sont avec nous savent qu'ils ont le petit
pour
moyen
de temps
à leur disposition.
Compte.
Ils ont des avions presque gratuitement à leur disposition. Qu'on demande à la MINUSCA, on met à leur disposition, ils peuvent partir. Mais il y en a qui n'arrivent plus à partir à leur base à seul. Il faut que nous, on soit à côté pour qu'ils aient du poids.
Parce qu'ils sont déboutés par la base?
Non seulement déboutés, mais ils n'informent pas leur base. C'est le travail qu'ils doivent faire. S'ils ont vraiment là pour qu'on mette le DDR en place, il faut faire ce travail.
Mais est-ce qu'on peut parler dans ce sens-là d'avancer dans le processus?
Avancer pour certains, parce qu'il ne faut pas généraliser. Certains sont là, ils savent ce qu'ils sont là pour faire. Et moi, je dis, c'est une mission qu'on nous a donnée. On n'est pas ici à vie. Si on avançait après le projet pilote depuis 2017, on devait rapidement y aller. Mais certains, bon, ils attendent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, des fois, ils ne le disent pas. Ils gardent ça en eux-mêmes.
Vous le savez.
Bon, puisqu'ils gardent en eux-mêmes leur fort intérieur, c'est difficile. Mais nous, on veut mettre le DDR. Je le dis, c'est un processus. On ne le mettra pas en un jour et puis parfait. On a vu au Mali, le DDR est lancé. En ce temps, il y a des tueries qui continuent quelque part. Mais on essaie de recadrer le plus vite possible pour récupérer les armes, pour que nos parents en province puissent avoir au moins la paix, la libre circulation, qu'ils aient au moins le minimum. Parce qu'on est à Bangui, on est dans des salles de réunion climatisées, mais nos parents en province, à cause des armes, ils souffrent.
D'accord, venons-en à la question là sur le grand DDR lancé à Paoua justement qui n'a pas fait l'unanimité. Qu'est-ce que vous en dites?
Qu'est-ce que je dis à Paoua qui n'a pas fait l'unanimité? Comme je l'ai dit, c'est une œuvre humaine. C'est difficile parce que avec ceux qui sont avec nos CCS, on est sorti d'une autre logique, on sort déjà. Mais travailler avec les groupes armés, c'est difficile d'avoir tout le monde à 100%.
Oui, nous les machinons quand même.
Au moment où on s'apprêtait à lancer le DDR, il y a des scissions dans certains groupes armés. Il n'y a pas que RG Belanga seul qui nous a amené même à nous mêler de la gestion interne. Or, ça, c'est pas le travail de l'État. On a tout fait pour que les gens repartent, pour qu'ils s'entendent. Mais c'est difficile. Et c'est de là où est partie la scission au sein de RG Belanga. Mais la révolution justice, elle, Belanga, était présente à Paoua par son président Dimoué qui a fait un discours ensemble avec le président de RG Sayo. Ils ont fait le discours. Maintenant, ce que je vais dire aux gens, s'ils ont des problèmes entre eux là-bas, ils font tout pour s'entendre. Qu'ils ne nous mêlent pas, moi personnellement, qu'ils ne me mêlent pas dans leurs problèmes de gestion de groupe armé. Je ne gère pas un groupe armé. Je gère le CCS avec les 14 groupes armés. Leur gestion interne, c'est leur problème. Pourquoi ils ne s'entendent pas? C'est difficile de vous dire, mais c'est pour des petits intérêts. Vous cédez un peu, je cède un peu, et puis on avance. Mais c'est difficile.
Oui. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez, n'est-ce pas, dans ces divisions-là, à l'interne, qui vont bloquer le processus, monsieur Tobi?
C'est de manipulation, s'il vous plaît, Hippolyte. Vous savez ce que le colonel vient de dire là? Je peux dire qu'ils sont à l'origine. Nous avons le programme de chaque section descend sur le terrain. Même si on fait la demande de l'EMOPI, ça tarde plus d'un mois. Et ça fait coïncider avec le prochain session.
MOP, c'est les formulaires à l'emprunt auprès de l'AMUSCA pour obtenir le billet d'avion et vous rendre sur le terrain.
Et vous savez, après le DDR pilote, nous sommes tellement mélancés jusqu'à ce qu'on a perdu notre président fondateur, paix à son âme, M. Belanga. Eux-mêmes, ils sont au courant de tout ce qui est passé. Donc, c'est difficile d'aller à Paoua, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Donc il a fallu des gymnastiques. Mais néanmoins, tout ça là, on a réussi à remplir les conditions du DDR pilote en donnant 40 armes à l'État centrafricain, en intégrant 20 ex-combattants RJ Belanga dans l'armée, 20 dans la réinsertion communautaire. Et là, ça c'est un travail d'un membre du comité consultatif, vous savez bien. À quoi sert bon d'aller au quartier prendre un membre du mouvement RJ Belanga, de faire partie sur le terrain? C'est en partant de là où les choses commencent à caboter. Cette personne, au lieu que ce soit les membres du CCS, c'est une personne d'ailleurs, une personne qui est aujourd'hui nommée comme conseiller militaire auprès du président de RJ Belanga.
Moi, ma question, elle est la suivante. Pourquoi s'agripper sur cette crise à l'interne pour bloquer le processus? Parce que vous avez boycotté votre participation au lancement du Grand DDR à Pawa.
Il y a l'Assemblée générale qui a eu lieu. Tout est mis en place pour structurer la situation. Malheureusement, je ne suis pas invité. Ils sont allés sur le terrain. Arrivé là-bas, c'était la veille que le chef de l'État doit descendre à Pawa. Que le colonel Selesson et le capitaine Ngoni m'ont appelé à 12h sur le réseau Turaya pour que je puisse prendre la moto et faire la descente à Pawa. Ils m'ont appelé. Monsieur.
Et pour vous, c'est impossible.
C'est impossible.
Pourtant, au nom de la paix, est-ce qu'au nom de la paix, vous ne pouvez pas vous sacrifier?
Écoutez. Ils ont pris des centaines de véhicules pour faire la descente à Pawa. Parfois, un 4x4 prend une personne. Mais à quoi sert bon de mettre même au mal arrière? Je vais aller, ça c'est mon pays, il faudrait que j'accède à cette situation pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Donc je suis prêt pour y aller, malheureusement je ne suis pas invité. C'est de là-bas qu'on m'a fait appel. Alors, vous savez, c'est de la même manière que notre frère de 3R, on l'a appelé comme ça de venir à boire, chercher un avion pour se rendre à Bangui. Au cours de la route, on l'a assassiné. Donc, je pense que c'est de la même façon que cela va m'arriver aussi. Est-ce possible de prendre la moto?
D'accord.
On peut compléter et puis le colonel
pourra répondre une seule fois.
Si vous me permettez.
Bon, ok, allez-y, colonel.
Ce que Toubi dit, c'est grave. Parce que quand il dit que c'est de la manipulation, l'histoire de scission a commencé avec la coordination des anti-balakas. Ça y est encore, Je suis convaincu que quand vous êtes allé créer vos mouvements, nous, on n'était pas là. Faites tout pour vous entendre. Parce que tel que ça se passe, pour aller au dialogue, ça va être compliqué. Et dans 3 mois, on va revenir ici, on va encore soulever ce truc. Quand vous avez créé le mouvement, le CCS n'existait pas. Vous vous connaissez avec Dimoué, avec les autres. Vous vous connaissez. Vous pouvez bien vous entendre. Arrêtez d'accuser les gens. Ça a commencé avec la coordination des anti-barakas. Ensuite, RJ Belanga. Même actuellement, le MLCJ est dedans aussi. Faites tout pour vous entendre. Ça ne vous grandit pas. Je dis, c'est des petits intérêts, mais...
Merci. Oui, merci pour vous.
En principe, le colonel Silesson est mon président, je suis le vice-président, on doit parler même langage à lui, mais ça me met à l'aise de contredire ce qu'il dit. Du moment où il a dit que les représentants des groupes armés sont restés à Bangui. Mais effectivement, du moment où on a mis en place le décret de nomination des membres de CCS, le président de la République nous a dit que les représentants des groupes armés membres de CCS doivent rester à Bangui pour siéger en permanence dans ce comité-là pour le bon fonctionnement du désarmement. En principe, ce qu'on devait faire, c'est quoi? C'est là que j'ai parlé de dysfonctionnement tout à l'heure. En principe, après chaque session, chaque membre de CCS représentant de groupes armés doit bénéficier d'un émopi pour descendre dans leur base pour faire la restitution. Alors, CCS n'a pas pensé à faire ça. Alors, la demande de MOP auprès de MINUSCA, c'est un tas de problèmes pour certains. Et tout ça là empêche le groupe armé de descendre régulièrement dans leurs bases respectives pour faire la restitution. Je prends par exemple mon cas là. Je suis à Bangui. Les anti-balakas sont un peu partout. On va me délivrer combien d'MOP pendant un mois pour parcourir toute l'étendue du territoire? Nous avons demandé des moyens qui vont nous permettre de faire le travail dans le sens, l'intérêt du peuple centrafricain.
Est-ce que vous émettez au moins les besoins?
Mais oui, non, on a fait. J'en viens, on a fait. Non. Et il a dit tout à l'heure qu'il faut avancer avec ceux qui sont prêts. Mais j'ai dit, mais lesquels? Lesquels qui sont prêts? Avancer avec ceux qui ont été désarmés à 2008. Je parle de UFR là. Ils étaient déjà désarmés. En principe, ils ne devaient pas faire partie des groupes armés qui sont actifs en ce moment-là. Ils étaient déjà désarmés. Leur liste, elles sont au niveau de Pinot, je ne sais pas quoi, mais c'est au niveau de Pinot. C'est à Pinot de nous remettre la liste au niveau de CCS pour voir si on peut les réintégrer. Parce qu'ils étaient déjà désarmés. C'est ceux-là qu'on dit que ce sont des groupes armés. Ils ont leur base où? Ils ont leur état-major où? Alors, si le colonel Selesson a dit comme ça, après Pawa, ça sera quelle ville? Et quel groupe armé qui vont être désarmés après RJ Belanga et RJ? Vous voyez, quand on dit la vérité au peuple centrafricain, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on doit corriger. Et le colonel a dit que, bon, je ne sais pas trop. Il ne veut pas s'ingérer dans le problème des groupes armés. Mais il a fait. Son staff a fait.
Pourquoi? Là, aujourd'hui, on parle de scission. C'est le CCS qui a organisé. Les gens sont venus, ils sont nommés par décret. Ils ont bénéficié des indemnités qui vont leur permettre pour faire le travail de CCS. Alors, certains leaders de groupes armés veulent que les représentants des groupes armés, dès qu'ils perçoivent leur indemnité, ils doivent les remettre l'intégrité. Alors que le texte ne nous a pas dit ça. Nous avons signé lettre d'engagement pour
c'est
la gestion
ça, la cause
de ce comité.
Oui,
c'est ça, la cause de division à l'interne.
Mais ça, c'est même plus de la leader là, du CCS.
Non, non, attends, ces leaders-là, ils ont consulté le CCS, précisément le président, et le président a accepté. Alors que le président connaît bien notre règlement intérieur, il peut dire que vous savez, ces problèmes de l'argent, ça ne nous engage pas, gérer ça entre vous. Mais le président a accepté qu'on puisse échanger ces salaires. Mais ils sont nommés par décret. C'est seul le décret qui va abroger leur décret. Mais comment on peut les changer comme ça? Sur base de quoi? On ne les a pas notifiés que vous avez fait tel, tel, tel comme ça. Alors que s'ils ont commis une faute, selon notre règlement intérieur, CCS de
oui,
mais en ce moment, CCS est basé sur la décision de jalousie de certains leaders pour remplacer les représentants des groupes armés au sein du CCS.
Peut-être que c'est dans le souci de faire avancer le processus.
Oui, mais le cas des anti-Baraka, nous avons remplacé notre représentant parce qu'il est sorti de la...
Vous avez même violé le décret. Vous avez fait relever quelqu'un qui a été nommé par décret par une autre de service. Donc, il ne faut pas accuser...
Oui, effectivement, j'en viens. Nous avons remplacé, c'est quoi? C'est l'autre là, le commandant Grimangou. C'était au début, c'est moi et lui qu'on est nommé par décret pour siéger au sein de ce comité. Après, aussitôt, il a eu une promotion au niveau de l'état-major. Il est le chef du cabinet de l'état-major à l'époque là. Bon, on l'a remplacé. Comme il a trouvé un boulot, on l'a remplacé par Judicael. Et après, Judicael est resté en Europe. Nous sommes obligés de le remplacer par Lebene Thierry. Lebene Thierry, maintenant, il n'est pas en relation avec la coordination. Il a fait sortir une autre coordination dénommée El Cadre.
Division à l'interne.
Division à l'interne. Voilà, c'est ça.
Ça pose problème.
Donc, le vrai problème de scission là, c'est le CCS qui est à l'origine.
Nous allons écouter le MSCG parce que récemment aussi vous avez été dans votre base et puis il y a eu un clash.
Je pense que nous adressons à une audience de nature publique. Et il faudrait qu'on dise la vérité au peuple centrafricain. Je suis très content d'entendre le président, le coordonnateur de l'unité d'exécution dire que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ça, je prends acte. Il a dit que ce qui est passé, c'est passé. On peut continuer à avancer pour réussir le DDR. Ça, je suis très fier de ça. Alors, la question de collaboration. On va collaborer avec qui? Parce qu'on a été sur le terrain. Et le président, le colonel Selesson, et moi, on a été à Birao. Il a vu de ses yeux les trafics d'influence quand l'autre là vient. Les questions de scission là, il ne devait pas s'y mêler. Mais il écoute celui-là qui dit que non, je vais te donner la liste tout de suite et puis après tout ça, tout ça. Non, on a fait 2 ans. On sait qui est qui et qui n'est pas qui. Et on devrait avancer comme ça. Mais si aujourd'hui quelqu'un vient et dit que non, c'est lui-là qui veut prendre ta place, tu vas l'écouter et après tu dis ah bon, maintenant ça devient de la haine et le travail n'avance pas. C'est là le but du blocage. Alors que ceux-là veulent réellement et sincèrement. Parce que si nous travaillons, il faut mettre en avant la sincérité. Si nous voulons faire le désarmement, il faut la sincérité. Il ne faut pas mettre l'intérêt personnel et penser que non, on fait comme ça, on rencontre comme ça, on dit comme ça, comme ça. La question de R.J. Belanga, parce que je suis le coordinateur. Entre-temps, les gens me connaissaient. Mais ce n'est pas pour rien que je suis coordinateur. Je peux parler à l'autre, je peux parler à l'autre, il va comprendre. Je peux lui dire la vérité pour que le pays puisse avancer. Lui, il a été déjà président. Pourquoi on ne lui a pas remis le billet d'aller? On ne l'a pas invité. On sait que l'autre là est nommé, il est dans l'État. Lui n'est pas président du mouvement. De cas de MLCJ, on dit MLCJ actuellement en problème. On sait que M. Toumou est nommé.
Oui, il
est on doit travailler avec ceux qui restent pour gérer les hommes. On dit non, non, il vient, il fait trafic d'influence. On dit non, c'est lui qu'on écoute. Mais moi, j'ai été sur le terrain, comme vous l'avez dit. On a vu ce qui s'est passé. Je crois que les autorités locales, certains sont déjà arrivés avant-hier et autres. Et il faut travailler avec la vérité que d'écouter les mensonges. C'est ça là le vrai nœud du problème. Sinon, on ne va pas avancer.
Alors, j'ai retenu un mot du colonel Selesson tout à l'heure. Il a dit que vous avez quelque chose que vous voulez, mais que vous ne l'avez jamais dit haut. C'est quoi? Qu'est-ce que les groupes armés veulent aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des pauses? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas dit haut pour permettre au comité consultatif vraiment de prendre ça en compte et de faire avancer le processus?
Moi, je dirais tout de suite que tout ce qui est comme demande a été remis. Les demandes sans feedback. Ça rentre dans le parafer, ça arrive ici, pas de réponse. Pour ceux qui veulent aller sur le terrain et puis ramener les listes sensibilisées. Non seulement ça, si on fait bien le DDRR, à part, la question du panel est à part.
Ça, c'est un problème au niveau ottoman politique là-bas. Mais nous, on peut commencer tel qu'on a fait pour le DDR pilote. On désarme et puis les questions de négociation politique peuvent arriver. Mmh. Et après, on sait que celui-là qui refuse, voilà, il est dans telle condition. Est-ce que ces préalables-là sont posés à la session du CCS? Après, on va dire que non, on vient au CCS, c'est parce que les gens veulent que de l'argent. Et on vient, quand tu poses un problème important, on te fait là, on te fait là, on te fait là. Tu ne sais pas ce que ça se passe. Mais les gens sont des humains. À un moment donné, ils commencent à comprendre que ça ne marche pas. C'est là où on parle de dysfonctionnement.
Colonel Noël Célesson, vous êtes d'accord avec moi que le programme est lancé dans un contexte d'insécurité dans plusieurs régions encore du pays, contrôlé à plus de 60% par des groupes armés. Je prends le cas de l'Ouest, justement, là où Croisière est très actif et qui s'oppose même au redéploiement des forces armées centrafricaines. Comment l'équipe va-t-elle affronter ces groupes hostiles au processus?
Vous savez, je le dis, le DDR est volontaire. Et j'ai l'habitude de le dire que le DDR à lui seul ne va pas résoudre toute la crise centrafricaine. À un moment, le DDR doit finir avec son rapport, remettre à d'autres institutions pour continuer le travail. Il n'y a pas longtemps, hier, Sidi Kissa est rentré dedans à Bokaranga avec un commandant de brigade. Il n'y a pas longtemps, hier, à Bombari, les éléments de l'UPC ont tiré sur les FACA. À un moment, il faut qu'on arrête de dire qu'on est dans le DDR, on est dans le DDR. Moi, je suis allé prendre contact avec Sidi Kissa deux à trois fois. Alors, si ça répond, il n'est pas pour le DDR, on va aller à Bois, il n'est pas pour le DDR. Je l'ai dit, le DDR est volontaire. Ce qui est contraire à ce qui est volontaire, ça va être quoi? C'est de finir nos rapports, remettre à d'autres institutions. Pour le DDR, on est parti. Tel nous a promis, on est arrivé pour désarmer. Il a refusé. Voilà ce qu'il y a à faire. Mm-hmm. Il n'y a pas que les carottes, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a les bâtons aussi.
Merci, colonel Noël Célesson. Colonel Malba.
Moi, je pense que la question de rapport, ce n'est pas ça qui importe. Le peuple centrafricain a besoin de la réduction des armes en circulation. On doit réduire les armes en circulation. Mais si on dit que le DDR ne résout pas le problème de la crise centrafricaine, c'est aussi oui, mais entre parenthèses, c'est pas ça. Pas tout, oui. Ouais. Parce qu'on doit réduire les armes en circulation.
Absolument.
Parmi ces armes, on pourrait en prendre pour remettre certains au FACA, pour travailler. Mais on dit non, on fait seulement pour faire notre rapport et puis on va déposer notre rapport. C'est pas ça. On doit aller au désarmement.
Je peux clarifier ce que je veux dire.
Oui, c'est
quand le DDR aura terminé à l'Ouest, après Pawa, on va aller à Boire. De Boire, on va aller à Kui. Sidi qui dit qu'il ne veut pas désarmer. Ok, on fait notre rapport. On s'en va à Baboua. FDPC, vous voulez désarmer? Non, on ne veut pas désarmer. On fait notre rapport que pour le désarmement volontaire, tel groupe armé n'est pas dedans. S'il y a moyen de désarmer par la force, il faut le faire. Parce que le peuple centrafricain est fatigué.
On va parler.
Oui. D'abord, monsieur Toby, tout à l'heure, le colonel a dit le DDR, c'est une affaire de volonté d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de RGB Langa, vous avez cette volonté de faire progresser le processus?
Je vais dire oui, parce que c'est en partant de là où on a perdu le colonel Belanga. Donc, nous sommes toujours tout prêts à aller au processus normal parce que RGB Langa, dans son idéologie, c'est de contribuer à la paix, procéder à tout processus qui consiste à protéger son environnement. Oui.
Donc là, pouvez confirmer que vos éléments présentement sur le terrain sont en train de désarmer?
Mais pas d'une manière claire.
comment
comme il se doit.
Si vous voulez, okay. M. Toubi est en train de faire des appels sur le terrain de manière hostile pour dire aux gens qu'il ne faut pas venir désarmer. Mais RJ Belanga avec RJ Sayo, chaque jour qui passe à Pawa, parce qu'en dehors de la cérémonie officielle, les équipes mobiles sont restées à Pawa pour 30 jours. Donc chaque jour qui passe, RJ Belanga avec RJ Sayo, ils amènent des éléments. Ce n'est pas forcément dans Pawa, mais dans les périphéries. Ça peut être à Talé, ça peut être à Bevara, ça peut être à Markunda. Le groupe, parce que le groupe ne se limite pas à un individu qui est à ma gauche. Donc,
mais il est quand même le président.
Il est le président. Il y a des points importants qu'on doit parler de ça parce que le temps passe.
Oui,
s'il a la volonté, je l'ai dit, c'est un processus. Il n'y aura pas encore une cérémonie de lancement à Pawa uniquement pour les dissidents de RJ Belanga. On est à Pawa pour désarmer les deux RJ. Comme je l'ai dit, leur problème à eux, c'est une question de représentativité. Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre?
D'accord, oui, monsieur. Que répondez-vous à ceux qui disent que les groupes armés font sciemment de traîner le processus parce qu'ils ont des intérêts, parce qu'ils ont des indemnités qu'ils peuvent
faire? Non, pas d'intérêt. Moi, je vais dire que c'est le dysfonctionnement au niveau du comité consultatif qui crée tout ce problème-là. C'est le dysfonctionnement. Tous les groupes armés sont prêts. Moi, présentement, les anti-Baraka sont prêts pour procéder au désarmement.
Bon. Mais c'est le dysfonctionnement.
C'est le dysfonctionnement.
Maintenant que le dysfonctionnement bloque le processus, en termes de solution aujourd'hui, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut?
Oui, solution, nous avons adressé une correspondance auprès des autorités supérieures. Et nous avons dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. On cherche à encadrer les choses, sinon ça va compromettre l'avenir du DDR. Mmh. Alors, jusqu'alors, le gouvernement n'a pas réagi.
Ok, merci.
Moi, je dirais oui, merci. Pourquoi on dit on doit faire à Pawa, dans le nord, dans l'ouest, après on viendra à Boire, après à Cui, tout ça. C'est pas prévu qu'on fasse un DDR de manière sectorielle. Ça doit se faire de manière simultanée. Si on commence le DDR, on fait le lancement, soit à Bangui, n'importe où, c'est le lancement. C'est une cérémonie officielle, d'accord. Maintenant, les équipes mobiles partent là, partent là, partent là. On choisit de prendre celui-là, celui-là, parce qu'on a des frais de mission. Quand on parle de questions de dysfonctionnement, c'est parce que c'est ça. Alors, ceux qui font le travail, ils sont mécontents. À un moment donné, les gens ne pourront pas. Le travail ne marche pas, à dire vrai. On va aller à Pawa, on va dire que non, non, on fait le désarmement. L'autre fois, on a refusé d'aller à Bria. On dit que non, Bria, parce qu'il y avait insécurité. Mais j'étais à Bria et les éléments de Bria n'étaient pas pris. Ça aussi, il fallait vraiment trouver des solutions pour leur parler. Et pourtant, Bria, il y a quoi? On fait le travail. À Birao, l'équipe mobile était partie, non? Il a désarmé des gens et ils sont rentrés dans la République, dans l'armée. Certains sont là pour le projet pilote. À Bambari, les gens, s'ils n'avaient pas la volonté, ils n'allaient pas venir, ils allaient venir. Et donc, il faudrait qu'on fasse... La PRD d'abord a été désarmée à Pawa. Pourquoi on va choisir Pawa pour aller faire le DDR, lancement de DDR là-bas? Ça frustre aussi, ça frustre.
Vous vous souhaiterez...
Bambari, Bria, Birao, Kaka, Bandoronde...
Pourquoi pas Bangui? En principe, on devait commencer à Bangui parce qu'il faut que Bangui soit une ville sans armes. En fait, même ça capote dans les aérés, puis les gens peuvent venir réfugier à Bangui. Mais on laisse
si
Bangui et puis voilà.
Si vous me permettez, je l'ai dit, il faut qu'on soit serein. Pourquoi pas Bambari, pourquoi pas Birao? Depuis longtemps, combien de fois on voulait faire l'agissement à Bambari? Qu'on soit sérieux dans ce qu'on veut dire. Maintenant, si ce n'est pas à Pawa, pourquoi pas Birao? Moi, je dis que c'est parce que les deux représentants des groupes armés de Pawa étaient disponibles. Ils nous ont remis leur liste. Moi, je suis parti 3-4 fois à Pawa. L'autre va me dire que je suis parti aussi à Bambari. Mais le niveau d'adhésion n'est pas le même. Pourquoi à Bangui? À Bangui, on a l'eau potable. À Bangui, on a les écoles. À Bangui, on n'a pas de problème de pont. Je le dis, dans le projet DDR, il y a l'appui à la communauté qui est derrière. Dès qu'on désarme, la communauté dans laquelle le combattant va revenir aura bénéficié des infrastructures. C'est les écoles, c'est les ponts, c'est les forages. Et ces problèmes, on n'a pas ça à Bangui.
Mais monsieur Colonel, on tue les gens, on est en train de tuer les gens à Bangui.
Monsieur Malba, pourquoi pas Bria, pourquoi pas Bambari? Alors, pourquoi Bria justement? Parce que le FPRC de Nourdine Adam, nous l'avons dit, qui contrôle le Nord-Est, n'adhère toujours pas à ce processus. Et vous, en tant que coordonnateur de groupe adhérent, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait pour ramener ces éléments du FPRC dans la dynamique?
Merci, je pense que le FPRC, en quelque sorte, c'est l'ex-coalition Séléka, qui avec les différentes ramifications. Et dire que le FPRC est toujours réticent, mon frère ici, des anti-Balaka, il est anti-Balaka. En principe, il devait parler de FPRC. Il a dit tout à l'heure, dans son intervention, que le FPRC est réticent à un moment donné parce que la mise en œuvre du programme ne le plaît pas. Mais si le FPRC est réticent, il n'allait pas envoyer ses représentants au CCC au départ. À un moment donné, ce comportement-là, nous, on a supporté pour rester. À un moment donné, ils se sont retirés. Le FPRC est dans le processus, mais c'est la mise en œuvre qui ne plaît pas. Il a envoyé ses représentants au gouvernement. Le FPRC a ses représentants au gouvernement. Le FPRC collabore. On y va vers eux pour toucher le problème du doigt. Pourquoi on a peur de la mort?
C'est là où on ne mettrait pas en exergue le problème d'intérêt particulier. Ils ont accepté de rester dans le gouvernement parce qu'ils ont des salaires et ils refusent de rester au comité consultatif parce que c'est du bénévolat.
Je dis, on n'est pas Dieu pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut faire des efforts parce que je ne suis pas coordonnateur pour rien. Mais les efforts que ceux qui sont dans le gouvernement sont en train de faire parce que nos parents, à un moment donné, c'est difficile de les faire comprendre. Il faut leur parler. À un moment donné, tu es fatigué comme ça. Ils continuent de faire le travail. D'autres sont difficiles. Il faut leur parler. Il faut venir vers eux. C'est peut-être parce que certains ne viennent pas vers eux. Mais nous, on y va, on leur parle, on leur parle. Et tout le monde veut aller à la paix parce que c'est la question d'intérêt. Il faut rentrer dans la République. Il faut laisser les armes. Il ne faut pas rester sur les barrières. Il faut ceci, il faut cela. Mais si on le fait, il faudrait que ceux qui sont en charge du travail puissent voir que non, celui-là est en train de faire.
Question d'intérêt, d'accord, mais où est la place du peuple dans tout cela?
La place du peuple, c'est pour que la paix puisse revenir. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens.
et que les questions de barrières puissent finir et que les armes ne puissent plus détonner et qu'il y a la circulation telle qu'on a vu pour la fête de Noël et puis il y aura la paix.
Merci Monsieur Malba. Monsieur Ntomate, aujourd'hui hein, les anti-Balaka ont décidé de suspendre leur participation au comité consultatif en guise de protestation à l'arrestation de leur leader Monsieur Gaïsona. Cette position, vous la maintenez?
Oui, effectivement, ça c'est la réaction de la base. Ouais. Du moment où nous avons écouté que notre coordonnateur général est arrêté à Paris le 12 décembre, la base, c'est-à-dire à Bangui comme dans l'arrière-pays, les gens ont réagi et ils ont dit qu'on se retire de tout le processus de la paix en attendant que le verdict soit rendu sur son arrestation. Mais officiellement, nous avons fait un communiqué que les deux ailes anti-Balaka se retirent du processus. Nous avons demandé à nos représentants qui sont au comité consultatif de suspendre leurs activités et nous avons demandé aussi à ceux qui nous ont représentés au sein du gouvernement de démissionner. Mais ça, c'est la décision de base. Nous n'avons pas encore écrit au comité consultatif pour faire retirer nos éléments. En attendant, là, présentement, la procédure d'extradition du coordonnateur général suit son cours au niveau de Paris. Donc, on suit ça jusqu'à ce que le verdict soit rendu. C'est là où on va prononcer officiellement. Mais en principe, vraiment... C'est pas nous, hein. C'est une manière de nous exclure du processus. Parce que vous savez, il est la tête du mouvement. Ouais. C'est lui qui doit conduire la délégation qui va nous représenter au niveau du dialogue. Mais s'il n'est pas là vraiment, c'est une manière de nous exclure du processus.
C'est-à-dire que vous vous réservez le droit de boycotter la suite du processus.
Oui.
Tout en sacrifiant le peuple centrafricain.
Non, on ne peut pas sacrifier le peuple centrafricain. J'ai dit, la procédure suit son cours. On suit ça.
D'accord.
On va se prononcer du moment où le verdict sera rendu.
Oui, monsieur Malba.
Je pense que je ne pourrais pas intervenir dans la question des anti-Balaka, mais puisque je suis le coordonnateur, je dois quand même intervenir. Si les anti-Balaka veulent boycotter la paix par rapport à l'arrestation, ça, c'est, ce n'est qu'une manipulation. On n'allait pas même fêter la fête de Noël. Parce que les choses sont organisées, orchestré pour qu'il y ait de troubles en République centrafricaine. Mais les centrafricains ont compris. Le peuple centrafricain n'est pas naïf. Et donc, les anti-Balaka ne peuvent pas s'attaquer à un musulman, les musulmans ne peuvent pas s'attaquer à un anti-Balaka. Parce que tout ça, là, c'est organisé. Et nous, on voit ça.
Par
on est mature. Quand on dit qu'on n'est pas mature, je ne sais pas. Peut-être par vous, Hippolyte, ou par l'autre, non, je ne sais pas.
Merci. Oui, monsieur.
Oui, vraiment, nos frères des anti-Balaka, vraiment, ils ont raison. Vous savez, le jour où on a perdu notre leader, nous avons aussi pleuré. Donc, ils ont aussi raison de pleurer pour leur représentant qui est arrêté. Donc, vraiment, tout ce que les gens disent, racontent auprès des anti-Balaka, vraiment, faudrait que cela soit retiré. Ils n'ont pas cette intention. Vraiment.
Une seconde. Nous ne voulons pas faire souffrir le peuple centrafricain. Donc vraiment, ce que nous souhaitons en ce moment, c'est seulement sa libération et son retour au pays, qu'il puisse nous conduire au dialogue. Parce que le dialogue, là, je crois que c'est une dernière chance pour le peuple centrafricain. Donc on devait faire tout pour que ce dialogue-là réussisse dans l'intérêt du peuple centrafricain. Alors vous imaginez, si notre coordonnateur général, qui est chargé des affaires politiques du mouvement, n'est pas là, on va discuter comment. C'est vrai, comme on dit souvent chez nous, que si la mère poule n'est pas là, les poussins se vadrouillent et ils sont exposés au danger. Voilà ce qui va se passer exactement pendant le dialogue.
C'est votre plaidoyer.
On espère que
qui de droit l'entendra.
Oui. Ah, voilà.
Merci, monsieur Ntomate. Colonel Noël Célesson, nous allons terminer avec vous. Hein. Aujourd'hui, certains groupes armés ont conditionné leur participation au processus DDR par rapport au dialogue aussi. Certains ont demandé à ce que le dialogue organisé par l'Union africaine aboutisse avant de continuer le processus. Est-ce que vous pensez que ça va retarder votre programme d'activité?
Quand le panel a été mis en place, je crois que lors d'une session de CCS, moi je l'ai dit. J'ai dit que ça va retarder le travail que nous on a à faire. Maintenant, tous nos souhaits, c'est que le dialogue puisse être rapidement organisé et qu'on ne perde pas de vue que pendant le dialogue, la question du DDR va être soulevée et que les cœurs soient disposés. Parce qu'on ne va pas au dialogue pour signer seulement les papiers, le cœur soit disposé et qu'on avance pour le DDR pour amener la paix. Le dialogue ne va pas faire de la magie. On a été à Brazzaville, on a vu les gens signer, et même le temps de prendre l'avion seulement, on n'a même pas encore grimpé dans l'avion, ça a commencé à crépiter ici après nous. Donc c'est les dispositions de cœur. Est-ce que les cœurs sont prêts? Certains disent qu'ils sont là, ils attendent le dialogue. C'est bien, c'est comme le DDR. Pendant longtemps, il y en a qui disent on attend le DDR. Mais en attendant, on continue à tuer le peuple centrafricain, le pauvre citoyen. Le cas d'hier, j'ai dit à Bokaranga, à Bambari, on n'attend pas le dialogue en prenant des armes. On attend le dialogue en contenant ces hommes quelque part et puis on attend le jour, le lieu pour partir, mais on n'attend pas le dialogue en tuant des Centrafricains. Et que le cœur soit disposé qu'après ce dialogue, ceux qui hésitent vont s'engager pour qu'on ramène la paix. Moi, je ne souhaite pas qu'après le dialogue, supposons qu'on nous dit que le dialogue, c'est à la fin du mois, qu'au mois de février-mars, on ne revient pas ici encore pour dire les mêmes choses. On dit, ok, on a signé, on a nos hommes à tel endroit, on est prêt pour la paix. Les partenaires commencent à hésiter de notre capacité à transcender la crise. Parce que ce qui les rassurait, c'était nous, nous là. Maintenant, ils voient que nous-mêmes, on commence nous-mêmes à perdre confiance en nous-mêmes. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire aux partenaires, on est encore capable de dépasser cette crise et de ramener la paix.
Alors, ce grand DDR qui est lancé, il est prévu de s'exécuter sur une période de combien de temps?
La phase DD, désarmement, démobilisation, c'est 6 mois. 3 mois, 6 mois. Après, on passe à la phase réintégration. Réintégration, ailleurs, c'est comme la réinsertion. Ça se fait dans les prisons. Quelqu'un qui n'a pas de métier, ça nous prend 30 mois. Et ça, ça sera la formation, l'emploi, ça prend 39 mois. Mais pour nous, le plus important pour nous, ça sera la phase DD. 6 mois après, à suivre un peu, c'est la réinsertion. C'est la phase transitoire entre la démobilisation et la réintégration. Il faut suivre que ceux qui sont désarmés sont bien formés, ils sont bien équipés, ils ont leur kit. Comme on l'avait vu au projet pilote, s'il y a des failles dans les kits, qu'on puisse être là jusqu'à ce qu'ils s'installent et qu'il y ait un travail de suivi. Est-ce qu'ils sont installés? On a leur à payer les impôts, les loyers pour 3 mois. Le travail de suivi et évaluation. Est-ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils arrivent à s'installer, à se prendre en main? C'est tout ce travail qui prend jusqu'à 30 mois. Donc, le DDR parti, 39 mois. 3 mois désarmement, 3 mois de mobilisation, 3 mois de réinsertion et 30 mois de réintégration.
Et le dernier R, le rapatriement, est-ce que c'est prévu aussi?
Ça sera nos frères des groupes armés pour nous dire, voilà, tel nombre des étrangers. Les étrangers qui sont dans les groupes armés, c'est à eux, les Centrafricains, de dire, voilà, on a des étrangers à tel nombre. L'effectif, vous allez me dire, estimé est à 500. C'est à eux de nous dire, voilà, on a fini la guerre, voilà les étrangers, et de mettre en place des commissions, parce que c'est des sujets très sensibles. Il faut mettre en place des commissions pour les rapatrier. Je sais que le Centrafricain tient trop au deuxième R. Ça, on l'a vu pendant le forum.
Merci à vous, colonel Noël Célesson. Nous terminons avec vous, monsieur Nordin Malba.
Je pense que, on le dit toujours, l'humilité précède la gloire. Il faut être humble pour accepter tout ce qu'on te dit. C'est bien bon de faire des discours. On sait que les 2D, désarmement, démobilisation, 6 mois, l'autre là, 39 mois, et ainsi de suite. Mais dans la pratique, il faut aller au fond des choses. Il faut accepter les vérités pour aider aussi le peuple centrafricain qui souffre. Et à un moment donné, on comprendra que c'est l'autre là qui est en train de faire du trouble. On va l'identifier. C'est simple à le faire. Et donc, je pense que le colonel Célesson, président, conseiller au DDR, doit essayer de revoir un peu sa stratégie. C'est très humble, tel que nous le disons. Et on va avancer, le DDR va marcher, le pays va réussir. Je vous remercie.
Bon, merci. Le colonel, il est là, il a écouté le message. Sur cette note, nous mettons terme à ce débat Patara sur Radio Ndekeluka, qui, je le rappelle, a été consacré aux avancées dans le programme DDR-R en République centrafricaine. Merci à nos invités ici présents, Guy Rémy Yamenenji à la technique, Hippolyte Marbois. L'animation vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.